La prochaine fois, Philippe se charge de nous faire ça, un pour chacun, pour qu'on puisse suivre et garder cette structure anthropologique, l'anthropologie structurelle, qui est quand même la base de notre réflexion depuis septembre 92. C'est bien. Alors, nous allons continuer un effort qui, je l'avoue, est pénible. C'est un effort pénible parce que dès qu'on rentre dans une perspective non pas religieuse, à proprement parler, la perspective religieuse regarde les sommets de notre vie spirituelle dans son contact avec Dieu, lorsqu'on sort un petit peu de la théologie où on regarde les sommets de notre intelligence en contact avec notre Créateur, dans la mesure où il commence à rentrer dans la divinisation par la grâce, lorsqu'on sort de la mystique, où on regarde comment l'Esprit Saint glorifie cette relation de grâce, et qu'on regarde au contraire de ces trois niveaux, le niveau un petit peu inférieur, où on regarde comment notre vie, notre esprit, notre âme spirituelle dans ces trois sommets, dans ces trois centres, irrigue notre vie intérieure sensible. Donc les relations entre le point de vue psychologique en nous et le point de vue spirituel. Cette analyse, cette découverte est plus pénible à faire parce que c'est plus lourd et on respire moins. Donc, dès qu'on rentre dans le point de vue psycho-spirituel, on étouffe davantage. On respire en Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est pas grave. C'est plus difficile et c'est plus lourd. D'un autre côté, certaines personnes s'y retrouvent mieux parce qu'on vit beaucoup au plan psychologique. Donc le but de notre travail, c'est de prendre conscience, c'est de prendre acte de ce fait que, comme nous vivons beaucoup et plus tôt, c'est un phénomène contemporain au plan psychologique, eh bien, il faut reprendre notre catéchèse, notre catéchuménat, à partir de ce point de vue psychologique, en tenant compte de ce point de vue psychologique, puisque nous ne savons plus être libres de notre vécu psychologique. C'est une chose qu'on ne peut plus faire, qu'on n'arrive plus à faire dans le monde contemporain. C'est une des tares de la vie moderne. Et donc on est obligé aujourd'hui de faire ce travail. Et en même temps, c'est une grâce, si vous voulez, parce que ça permet justement à la divinisation de prendre non seulement les parties spirituelles de notre âme, mais peut-être aussi d'assumer toutes les défaillances de notre vie psychologique. À ce moment-là, peut-être, est-ce possible pour le corps de crier à son tour « Grâce, grâce pour moi aussi ». À ce moment-là, on aura fait le tour le tour de notre univers. Voilà. Alors, on a vu la dernière fois, on a regardé le livre de la Genèse pour voir précisément comment, de manière très explicite, on voit apparaître, dès qu'il y a le péché originel, en Adam, en Ève, on voit apparaître ce sentiment de culpabilité. On voit apparaître cette conscience de culpabilité. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et donc maintenant, on va regarder, puisque on en a une trace dans l'Écriture, on va regarder les mécanismes. Le mécanisme, c'est donc ce tableau que nous avons ici. Comme cet enseignement ne vient pas de moi, c'est pas ma spécialité, loin de là, n'est-ce pas ? Donc, vous m'excuserez si je tâtonne un peu, n'est-ce pas ? Mais au moins, j'essaie de vous transmettre autant que je peux. Les deux tableaux que nous lisons en ce moment sont celui-ci, c'est-à-dire ces tableaux où vous voyez apparaître le problème du sentiment de culpabilité en haut, c'est-à-dire ce qui correspond à la honte. Ils étaient nus et ils en avaient honte. Et puis en bas, la conscience de culpabilité avec ses mécanismes. Et puis, d'un autre côté, vous avez un tableau sur lequel a deux colonnes, sur lequel vous avez les caractéristiques de la honte, sentiment de culpabilité, les caractéristiques de la culpabilité consciente. Donc on va suivre ce schéma et on va suivre, si vous voulez, ce programme. On va regarder le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire le schéma du haut qui est ici, en suivant cet ordre-là. Vous voyez comme ça, si vous décrochez à un moment en disant « mais oui, ce qu'il dit, c'est vrai », et puis vous rentrez dans votre « puis vous rattrapez le fil 5 minutes après, vous avez ce tableau pour... Parce que c'est ça la difficulté, c'est que c'est tellement, ça touche tellement nos problèmes directement que c'est très difficile à suivre. Ça, j'en ai conscience. Ça. Très bien, alors vous êtes prêts? Voilà. Alors, à moins que vous ayez des questions par rapport à la dernière fois. Est-ce que la dernière fois, vous avez noté quelques petits problèmes sur lesquels vous voudriez qu'on revienne? Parce que... Bon, alors, donc, il y a deux. La culpabilité, la faute en nous, a un écho dans notre vie animale qu'on appelle le point de vue psychologique. Ça nous donne des impressions bizarres. Le fait d'avoir fait la faute, une espèce d'explosion, et le retour du bruit de cette explosion dans notre vécu intérieur, dans ce qu'on ressent psychologiquement, ça fait cette impression bizarre qu'on appelle le sentiment de culpabilité. Et puis, ça a un deuxième écho dans les profondeurs de notre vie spirituelle, bien camouflé précisément par cette impression bizarre qu'on appelle le sentiment de culpabilité, et notre vie spirituelle est elle-même un petit peu brisée, éclaboussée. Notre intelligence, notre mémoire spirituelle, ontologique, notre cœur aussi, sont éclaboussés. Et il y a effectivement un écho beaucoup plus objectif, beaucoup plus vrai, dans notre vie, dans la partie spirituelle de notre âme. Et c'est ce qu'on appelle la conscience de culpabilité. Tout notre effort sera précisément, petit à petit, d'apprendre à sortir des impressions psychologiques dues au péché pour rentrer dans la faute toute nue, toute crue, celle qui est reçue en pleine réalité, en pleine objectivité, dans mon esprit. Parce que l'esprit, lui, eh bien, il reçoit l'être des choses, il n'en reçoit pas les accidents. Quand la faute est reçue dans la partie spirituelle de mon âme, c'est la partie substantielle de la faute, si vous voulez. C'est la partie essentielle, si vous pouvez plus exactement, de la faute qui est reçue. Parce que la faute n'a pas de substance. Ça, c'est vrai. De ce côté-là, le bouddhisme, peut-être que si le bouddhisme pense que les choses n'ont pas de substance, c'est peut-être parce qu'il assimile tout à une faute. C'est pas du tout impossible. Parce que le bien a une substance, quand même. Heureusement. Et justement, c'est bien pour ceux qui connaissent le bouddhisme, faites le parallèle, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Parce que le bouddhisme ne serait-il pas une projection du sentiment de culpabilité sur la conscience de culpabilité? Ça, sûrement. Moi, j'en suis sûr de ça. On reste au niveau métapsychique. Donc, c'est une projection. Bon. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, dans toutes les directions, on va regarder. Alors, qu'est-ce que c'est cette espèce d'écho, ce sentiment bizarre, cette impression bizarre qu'on appelle le sentiment de culpabilité? C'est qu'on a l'impression d'être une ordure. Que finalement, à bien regarder, je suis un pauvre mec. Que finalement, tout ce qui m'arrive, c'est lamentable. Et ma vie, au fond, est un drame. Il ne m'arrive que des malheurs. Et malheur sur malheur, et au fond, finalement, je ne suis rien du tout. Je ne suis pas grand-chose. Mais c'est vrai, quelque part. Attention, très bien, attention. Je ne condamne pas. Je ne dis pas, enfin, je ne me moque pas. Mais ce sentiment, cette impression, mon Dieu. Oui, ce sentiment, cette impression que je suis une ordure, ça peut se formuler comme ça, que je suis... vraiment mal, qu'il ne m'arrive que du mal, que je n'attire que le mal, que je ne produis, au fond, que des trucs qui sont pas grand intérêt. je ne suis pas aimable. Et d'ailleurs, je constate que je ne suis pas aimé. Ce sentiment très très fort qu'on ne m'aime pas vient du sentiment de culpabilité. Il y a quelqu'un qui vit très très fort qu'on ne m'aime pas, qu'il ne m'arrive que du mal. Parce que dire « il ne m'arrive que du mal », ça veut dire « personne ne m'aime hein. ». C'est la même chose. Parce que quand quelqu'un vous aime, il ne vous arrive pas du mal. Quelqu'un, eh ben, c'est ce sentiment de culpabilité. Ce sentiment, cette impression qu'au fond de moi, ce centre de moi-même, qui attire les autres à m'aimer, n'existe pas. Au centre de moi-même, il n'y a que des choses qui attirent le mal, et c'est le mal qui attire le mal. Donc je ne suis que mal. Je suis mal d'ailleurs, je suis malade. Et c'est donc un sentiment de caractère, vous voyez, c'est un sentiment psychologique, subjectif. C'est une impression. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous voyez ce que va dire le Bodhisattva Bouddha, n'est-ce pas? Donc le Bouddha saint, éveillé et vivant d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est dire que précisément, c'est une illusion. Et tout est illusion. Mais là, c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que ça, c'est une illusion. Ok. Mais que tout est illusion, non. Mais c'est pas du tout une illusion. Mais ce sentiment, cette impression-là, elle est psychologique, subjective. Vous serez frappé de voir, alors, à force de comprendre la différence entre le sentiment de culpabilité et la conscience de culpabilité, à quel point c'est une manière très très forte de regarder sous une autre lumière l'encyclique du pape Veritatis Splendor, parce que la subjectivité en éthique est directement liée au sentiment de culpabilité. On fait une éthique psychologique aujourd'hui, c'est une éthique du sujet, c'est l'éthique des impressions du sujet, j'ai l'impression, tandis que le pape dit non. C'est objectif. Il faut faire une éthique de la conscience, une éthique du mal spirituel, du mal par rapport à la partie spirituelle de notre âme, pas par rapport à la partie psychologique. L'éthique, c'est pour l'homme, c'est pas pour les bêtes. Or, la partie subjective, si vous préférez, psychologique de notre vie, on la en partage avec l'animal. Et c'est vrai qu'on est dans une civilisation où l'homme ne peut plus s'entendre avec l'homme, et du coup, il s'entend avec l'animal. Et c'est vrai, la vie domestique, c'est devenu comme ça. Pour 90% des Français, par exemple. Qui est une civilisation occidentale, chrétienne. L'animal prend le pas. C'est extraordinaire. Je divorce et je prends un animal. J'avorte, je prends la pilule de ça, et j'ai un chien. Et un chat, en plus, encore mieux. Et si je pouvais avoir un cheval, ce serait merveilleux. Mais c'est plus énorme, un cheval. Dans la HLM, vous voyez, le cheval, c'est ça. Si j'étais en Inde, je prendrais un éléphant, vous savez. C'est merveilleux, un éléphant. Non, mais c'était impressionnant, impressionnant. Alors, c'est un sentiment. Donc, vous voyez les caractères. Un caractère d'indignité, on se sent indigne. Et quelquefois, vous allez voir le confesseur, vous allez voir, hein, attention, si vous allez voir le confesseur et que vous mettez au niveau du sentiment de culpabilité, je me sens indigne, mon père. Oh, je me sens, je comprends que vraiment on me rejette, je sais pas, je suis complètement abandonné de tous, et je comprends que Dieu m'abandonne, j'ai honte de moi, je ne suis pas aimable, pas bien, là, vraiment, vraiment, c'est pas mon péché, c'est terrible. Ah, ça, c'est psychologique. C'est pas du tout une confession, ça. Quand t'as frappé un chien, c'est ça qu'il pourrait dire, s'il pouvait parler. En tout cas, c'est ça qu'il pense, le chien. Il pense la même chose. Et un chien, je peux pas lui donner absolution. Vous voyez bien? Donc, j'ai fait le péché. Alors, je prends quelques petites formules. J'ai fait le péché. Mais je ne suis pas sûr exactement que ce que j'ai fait là, ce soit mal. Vous voyez, quelquefois, oui, ce que j'ai fait, c'est sûrement... Enfin, mais j'en suis pas sûr. Enfin, bon, vous voyez, il y a un petit côté de scrupule. Ça, c'est psychologique aussi. C'est le sentiment de culpabilité qui vous fait penser quelque chose de ce genre. Mais quand vous êtes dans la conscience de culpabilité, vous avez fait un péché. C'est un péché et vous le savez. Et vous savez, qu'est-ce que... C'est le péché cru que vous donnez. C'est l'acte. Dans sa grossièreté. Que vous donnez à Jésus pour vous faire pardonner. Vous ne le camouflez pas. Non. Dès que vous le camouflez un peu, vous avez du mal. C'est que c'est psychologique, votre démarche. Je vous rappelle que, vous vous rappelez la retraite que nous avons faite sur la confession, et qui nous indique que si je n'apporte pas le péché dans une contrition donc qui implique nécessairement la conscience de culpabilité, et donc si je suis dans la fausse culpabilité, le sentiment de culpabilité, il n'y a pas d'absolution. L'absolution est invalide de plein droit. Parce qu'il n'y a pas la matière du sacrement, je vous le rappelle. Parce qu'il n'y a pas la matière du sacrement, il n'y a pas de sacrement. C'est pour ça que quelqu'un qui vient faire une confession et puis qui l'enrobe dans le sentiment de culpabilité en disant « Oh là là, c'est horrible, c'est affreux, rien, mais qui ne dit pas son péché. Parce que l'ose pas, il dit quand même, grand Dieu. Hein? Il faut savoir être vrai. Vous voyez? Il faut dire ce qu'on est, confesser ce qu'on est. Et on confesse ce qu'on est, non pas en disant ce qu'on ressent, après avoir péché, mais en disant le péché, l'acte qu'on a fait. Dans toute sa grossièreté, dans toute son... Alors, ça culpabilise à ce moment-là sur le plan de la conscience, mais pas sur le plan psychologique. Et en rentrant dans l'angoisse spirituelle qui correspond à la conscience, je culpabilise ma conscience, à ce moment-là, je rentre dans la libération. Tandis que si je me culpabilise au niveau de la psychologie, alors je me détruis. Et je rentre dans une espèce de suicide psychologique qu'on appelle la schizophrénie, la schizoïdie, la névrose, les pathologies diverses. C'est ce qu'on va regarder. Alors, voyez bien que le siège du sentiment de culpabilité, ça touche bien entendu cette relation, cette soif relationnelle qu'on a. Ça touche l'amour, l'affectivité en nous, le cœur. Mais le cœur, voyez, dans cette soif de relation. Le soif d'être en relation avec quelqu'un. Je me sens pas aimé, je me sens mal. Je suis coupé de tout. Je suis aliéné. Ce sentiment d'autonomie, vous voyez, est très 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 lié avec le sentiment d'aliénation et le sentiment de culpabilité, ça c'est sûr. Et c'est ce point de vue relationnel dans l'âme sensible, psychologique, dans l'âme affective. Vous voyez, donc je me sens honteux. Bon, et on va faire plusieurs descriptions pour que vous voyez bien à quoi correspond ce sentiment de culpabilité. Je me sens honteux, je me sens laid, je me sens sale, je me sens impur. Je suis une ordure, je suis bon à être jeté dans une poubelle. Vous voyez, quelquefois c'est vrai. Quelquefois, votre papa, vous avez 3 mois, n'est-ce pas, vous êtes un petit bébé. Et votre papa est excédé parce que vous hurlez la nuit. Parce que son épouse, qu'il adore, il rentre dedans, elle n'en peut plus. Elle dort plus, etc., que de ce gosse. Voilà. Prends le petit couteau. Parce qu'il veut protéger sa femme. Il en a marre. C'est pas possible, ça. Mais le gosse, c'est un chat. Regarde son père. Et il sait très bien que son père, ou même peut-être sa mère, quelquefois, a voulu le jeter dans une poubelle. Et c'est à ce moment-là que se structure le sentiment de culpabilité. Parce que c'est ma relation initiale avec mon père et ma mère qui structure l'impression de ce que je suis. La première impression de ce que je suis sont structurées dans le regard de mon père et de ma mère sur moi. Et ça vient précisément, ce qu'on va voir, le sentiment de culpabilité est totalement constitué à l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans, c'est fini. Le sentiment de culpabilité est complètement structuré. C'est très libérant de savoir ça. Pas la peine de chercher, oui, c'est parce que ça m'est arrivé à 20 ans, c'est pas du tout ça. C'est pas à cause de ça. Parce que votre innocence originelle a changé de visage. Et alors, c'est pour ça qu'on en arrive à dire je suis une ordure, je suis bon être, je te laisse une couverte. Je ne suis pas aimable. Il y a des gens comme ça qui ont été rejetés par à la période embryonnaire, par exemple. Or, c'est trois quarts, donc 90% peut-être de l'humanité, peut-être sans doute. Hein. À un moment donné, leur mère dit, non, c'est pas de cause, c'est pas possible, ça dérange, ça déforme le corps de la femme. À un moment donné, c'est rare qu'il n'y ait pas un phénomène de rejet, sans compter tous les désirs d'avortement, qui n'ont pas lieu finalement. Bon, les tentatives, etc., si vous voulez, c'est effrayant. C'est presque tous, peut-être, on a eu quelque chose comme ça, au moins en pensée. Vous voyez là, au moins à titre de tentation. Bon. Du côté du père et de la mère, voilà. Vous voyez. Alors, du coup, c'est le premier regard qu'on a. Quant à, c'est au moment où se formait précisément l'âme sensitive dans l'embryon. Dans le point de vue psychologique de l'âme. Le point de vue spirituel de l'âme se formait bien après. Hein. La partie cérébrale, capable d'intellection et tout, se formait bien plus tard. Et par conséquent, c'est le visage psychologique que j'ai de moi-même qui apparaît à ce moment-là. Et si on ne me reconnaît pas sous ce visage que je ressens, j'ai l'impression que je ne suis pas reconnu pour moi-même. Et c'est pour ça que je provoque sans arrêt, à nouveau, ce même regard. Mais c'est faux. Voyez bien. Alors, donc je continue. J'essaie petit à petit, il faut essayer petit à petit de comprendre, je ne suis pas aimable. Alors, une personne comme ça qui en a fait des tentatives d'avortement, prenons un cas extrême. Bon, et puis on a vraiment voulu, hein. On a vraiment voulu, ça n'a pas marché. Bon, enfin, finalement, un gosse naît, n'est-ce pas? Bon, alors, évidemment, personne ne m'aime. Hein. Je ne suis pas aimable. Forcément, ce sentiment de culpabilité, ce sera comme ça. Hein. Et le jour où elle va se marier, personne. Et puis elle va voir son mari qui l'adore, qui l'aime, toute ma vie, etc. Elle est complètement étonnée, quoi. Pourquoi il m'aime? Qu'est-ce que c'est ça? Il m'aime. Mais elle pense pas que ce soit possible, elle pense pas que ce soit vrai. C'est pas possible pour elle. Être aimée. Vous voyez, elle a l'impression que c'est pas vrai. Ça vient de ça. C'est un sentiment, ce n'est qu'une impression. C'est une illusion. Il m'aime vraiment. Et quelquefois, le Seigneur vient à nous et se manifeste à nous, il nous choisit. Et vous dites, tiens, le Seigneur s'intéresse à moi, ça vous paraît invraisemblable. Puis tu es intéressé à Saint-François d'Assise, d'accord. Qui se sont intéressés à l'Immaculée Conception, d'accord. S'intéresse à moi. Ça vient du sentiment que tu peux pas. Mon innocence est Christ. C'est ça, c'est le sentiment de culpabilité. Mais c'est pas vrai. Un Dieu s'occuperait de moi, oui. Alors, je me rappelle la première fois, au début justement, nous faisions ici, grâce à ce groupe, nous avons commencé à faire un peu parler de la responsabilité, grâce à Marie-Odile, à Geneviève, à Charlotte, à Léon, tout ça. On a parlé beaucoup de sensualité à Rome, hein, parce que j'avais que des exemples admirables. Hein, d'unité sponsale actuelle. Première fois, j'ai confessé Maurice, vous vous rendez compte. J'étais très impressionné. Nous allions directement au cœur de la catholicité. Nous allions à Rome. Quelques temps après, je me disais quand même, j'invente peut-être des trucs. Hein. Le pape qui a dit ça. Bon, je les exploite. Est-ce que je ferais pas mieux?
veux le répéter bêtement comme un perroquet ce que dit le père Marido et Saint-Augustin, Saint-Thomas, sans en rajouter, quoi. Parce que ça va me taper sur les doigts si je continue là. Et puis, là, un de mes cousins germains, qui s'appelle Pierre, c'est beau ça, rencontre une jeune fille, et suivi toute sa vie, ainsi que toute sa famille, par un de mes oncles qui est prêtre. Donc, il décide de se marier, il dit, bon, bah, c'est le tonton qui va me marier. Moi, je le connais à peine, ce Pierre. J'ai vu une fois, je crois. C'est un cousin germain, mais chez nous, moi, j'ai que 67 cousins germains, alors... je ne connais pas tous, hein. Non, la moitié de mes cousins germains, je n'ai jamais vu, quoi. C'est une cousine germaine, ça. C'est vrai, cousin germain, c'est ce qui est tout de suite après frère et sœur, cousin germain. C'est pas cousin issu germain, c'est cousin germain. Alors, il rentre à la cathédrale Notre-Dame de Paris, vous voyez, et il aime bien, là, il travaille sur Paris, il travaille dans Notre-Dame de Paris, il se trouve devant le pilier, vous savez, où il y a Notre-Dame de Paris, là, la statue. Et la Vierge, d'un seul coup, la Vierge lui parle, et lui dit, il faut que ce soit Patrick qui te marie. Quand il m'a dit ça, je vous assure, la Sainte Vierge, elle me connaît. J'étais super fait, j'ai commencé à la Sainte Vierge, elle me connaît. Et c'est ce que j'ai dit. J'étais complètement étonné, la Sainte Vierge s'intéresse à moi, Dieu s'intéresse à moi. Je suis senti à... Ça paraît invraisemblable. Mais enfin, Dieu est là. On a quelquefois aussi des sentiments de rejet. On se sent rejeté par le groupe. On se sent rejeté par la communauté. Je me sens rejeté. On ne me comprend pas, on ne me reconnaît pas. Hein? Je me sens rejeté. Un sentiment de culpabilité. Qui te rejette dans le groupe? Personne ne te rejette dans le groupe. Voilà une connerie. C'est une impression. Nous allons vers le Père. Et donc, si dans le train, les gens qui vont vers le Père, tout le monde est content. Personne ne te rejette, parce que ton cœur dort du train. Rome en est rentré souvent dans le train. On en est sorti souvent aussi, mais ensemble. Et personne. Ça. Alors, mon manque de confiance en soi, vous voyez, je me sens pas capable. Je sens que ça va pas marcher. Et il faut que ça va pas marcher. Je vais. Bon, il faut que je fasse une petite conférence sur l'ADN. Ah, je sais pas si ça va pas marcher. C'est vrai, c'est pas commode de parler en public. Hein. C'est vrai, c'est... Je vais faire un sermon pour un prêtre. Hein. Regardez, il faut avoir pitié pour tous ces prêtres qui doivent dire un sermon à chaque fois. Ça va pas passer. Ah, ils y croient plus. Sentiment de culpabilité. Ils croient à Dieu. Mais ils ont le sentiment de culpabilité, ils ne croient plus en eux-mêmes. Vous voyez ? Le complexe d'infériorité, la timidité, vous voyez ? Alors avant d'arriver au micro, il y a une angoisse qui vient. Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Je suis complètement paralysé. Bon. Sentiment d'être abandonné, sentiment de solitude, sentiment de ne pas être compris, c'est tout ce que nous avons dit. Il y a aussi quelquefois des impressions comme la peur de la mort. De l'enfer, la peur d'être rejeté, au fond, radicalement, définitivement et éternellement. C'est vrai, on a peur de ça. Bon, on a ce sentiment. Donc, derrière tout ce sentiment de culpabilité, il y a quelque chose d'infernal. Hein. C'est pour ça qu'il faut éviter de vivre au niveau psychologique. Sinon, on rentre dans la spiritualité. Du rejet, quoi. Dans l'animalité des lieux inférieurs. Et il faut faire cet effort de ne pas vivre au plan psychologique et de rentrer dans la vie spirituelle. C'est nécessaire, sinon on n'est plus un homme. Un homme ou une femme qui s'appuie sur ses impressions, c'est fini, c'est plus un homme. C'est une bête. Bon. Et c'est pour ça que, au fond, il va y avoir, à partir de ce sentiment, cette impression, tout un comportement. Et dès que nous vivons à partir de ces impressions qui sont issues du sentiment de culpabilité, on va engendrer tout un comportement. Piaget, par exemple, avait bien saisi ce passage, par exemple, de l'enfant. À partir du moment où le sentiment de culpabilité se structure en sentiment de culpabilité définitivement, jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans, apparaît d'un seul coup, après cette période du oui, la période du non. Une fois que le sentiment de culpabilité est formé, il va y avoir un comportement réactionnaire. Vous voyez, il va pratiquer, l'enfant, et nous-mêmes, ensuite, toute notre vie, vont pratiquer la politique de l'échec. Non, je dis non. Je dis non précisément parce que j'ai besoin de retrouver la relation initiale avec mon père et ma mère qui était précisément perçue comme négative. Et donc je vais dire faire plein de choses, plein de bêtises, etc. Et de manière à ce que mon père et ma mère me disent « Ah, c'est encore toi qui as fait ça ! Ah, mais c'est sûr que tu allais faire ça, que tu allais rater ! Ah, mettez-le, etc. » Et je fais tout pour qu'ils me disent ça. Sentiment de culpabilité engendre ce comportement de catastrophisme et s'engendre à partir de cette réactionnelle, cette première prise réactionnelle, ce qu'on appelle la névrose d'échec. Et inconsciemment, je vais vers la catastrophe et vers l'échec, mais parce que j'en ai besoin pour être reconnu dans cette relation avec le père, avec la mère originelle. Vous savez, là, quand je vous en dis pas plus que les psychologues, c'est de la psychologie qu'on fait là. Hein? Mais c'est de la psychiatrie. Et vous voyez, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas tenir compte de notre relation avec notre père et notre mère. C'est vrai, tout ça est vrai sur le plan psychologique. Mais si on s'arrête à ça, ça veut dire qu'il faut se libérer du père, se libérer de la mère, se libérer de cordon ombilical, tuer le père, tuer la mère, et puis qu'on n'en parle plus. Et puis, on vit, tu parles. Ah, vous voyez, bien heureux, mais oui, c'est bien sûr. Dreverman, c'est ça. Hein? Bon, donc, et Jésus nous apprend à rejeter le Père, rejeter notre origine, rejeter la mère, et à faire enfin tout, n'est-ce pas, en positivité psychologique. Hein? Comme si Jésus était venu pour qu'on vive au plan psychologique positivement. Mais non. Alors, j'espère que vous comprenez ça, parce que on le vit un petit peu, quoique ce soit beaucoup plus camouflé quand on a l'âge à quel nous sommes arrivés, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus utile, mais n'empêche que, quelque part, on est content s'il nous arrive un malheur. Si on provoque par un comportement outrancier, ou tout juste, pas suffisamment outrancier, une réaction négative. Je provoque exprès parce que j'ai besoin de me voir comme couvert de sang. Puisque ma mère avait voulu me couvrir de sang quand j'étais embryon. Elle avait voulu m'avorter. J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me retrouver dans cette situation originelle. J'ai besoin de me rapprocher de cette situation originelle. Pourquoi en fait? Entre nous, ceci, j'ai besoin de me retrouver le plus proche possible de cette situation originelle. Parce que dans mes origines, je viens de Dieu. Hein? Je tiens à vous le dire, c'est à cause de ça. Mais psychologiquement, la première mémoire que j'en ai, c'est non pas cette relation directe avec Dieu, parce qu'elle est gardée ici dans ma conscience spirituelle. Mais la première mémoire que j'en ai, c'est la relation de Dieu à travers le visage de mon père et de ma mère. J'espère que c'est très simple, et en même temps, c'est très facile à comprendre. Et puis, c'est quotidien, je veux dire. Mais c'est important, ça veut dire, c'est des choses qui vont nous aider, tu vois, à ne pas nous juger. À ne pas juger l'autre, voyez bien. Alors, voyez, quel est le chemin, au fond, de guérison psychologiquement? Le chemin de guérison psychologiquement, c'est d'accepter de s'aimer soi-même ou d'aimer celui qui est blessé. comme enfant blessé. Je suis blessé, mais je suis cet enfant couvert de sang, et je m'aime tel quel. Voyez bien. Oui, c'est vrai, je suis dans cette innocence crucifiée, si vous voulez. Mais c'est comme ça que je m'aime, et je me reçois comme ça. C'est ça que j'aime en moi. J'accepte cela, et non seulement je l'accepte, non, c'est pas de la résignation, mais j'aime être cette innocence crucifiée. Nul n'est plus proche de Jésus, l'innocent crucifié. Nous sommes là où nous sommes le plus proche psychologiquement de Jésus crucifié. C'est là où nous ne sommes pas aimables, où nous n'avons pas été aimés et nous sommes blessés dans notre innocence. C'est là où nous sommes le plus proche de Jésus crucifié. Sur le plan psychologique. Et donc psychologiquement, c'est bien d'apprendre à aimer d'être dans cette innocence crucifiée. On s'en lamente plus. On en loue le Seigneur. On remercie. Et c'est comme ça qu'on s'aime. C'est ça que j'aime en moi. Et du coup, c'est ça que j'aime dans l'autre. Aussi. Parce que si c'est ce que je fais en moi, il y a quelque chose qui peut se passer dans l'autre. Alors, le drame, vous le sentez bien. Dans cette histoire sentiment de culpabilité, et ce vécu si sombre, si je puis dire, c'est que le plus grand drame, finalement, dans notre vie intérieure, c'est qu'il amène une confusion entre la personne et les actes. Oui. Au lieu de dire, ce sont mes actes qui sont mauvais, je veux dire, c'est moi qui suis mauvais. C'est ça qui est terrible dans le sentiment de culpabilité. Mais moi, je suis mauvais. Je n'engendre que le mauvais. Dieu m'a donné la vie, soi-disant, mais oui, mais je me tourne vers Dieu, je prie, etc. Mais finalement, je n'engendre que la mort autour de moi. Que la dépression autour de moi. C'est moi qui suis coupable de tout ça. C'est ma personne qui est mauvaise. Ce n'est pas mes actes. Et je ne regarde pas mes actes. Je regarde que c'est moi qui suis mauvais. Et ça, c'est un sentiment de culpabilité. C'est une très grave erreur. C'est un immense mensonge. Et c'est démoniaque. C'est le fruit du souffle de Lucifer en nous. Parce que c'est très subtil de dire ça. Subtilement, Satan, il essaie de nous faire dire ça. Pourquoi ? Parce que c'est merveilleux, vous comprenez, pour lui. Il dit, si c'est la personne, n'est-ce pas ? La personne elle-même qui est ignoble, et non ses actes. Les actes, qui est-ce qui les produit ? C'est moi. La personne, qui est-ce qui l'a produit ? C'est Dieu. Et donc, c'est Dieu qui est coupable. Quand je dis, mais finalement, je suis... Et c'est pourquoi le sentiment de culpabilité, si on ne s'en dégage pas, n'est-ce pas ? Si on ne le rejette pas, eh bien, et on finit par accuser Dieu continuellement, sans le savoir. Sans le savoir, et c'est là où il y en a un qui est content. Et cette confusion entre la personne et les actes, c'est toute l'encyclique Veritatis Splendor est basée là-dessus. C'est pas le sujet qui décide ce qui est bien et mal, la personne. C'est les actes. Objectifs. Est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont mal? C'est pas la personne qui est bien ou mal, c'est les actes qu'il fait qui sont bien ou mal. Donc, ce n'est pas l'impression que tu as fait du bien qui dit que c'est ce que tu as fait, c'est bien. C'est, on regarde objectivement si tes actes sont conformes aux commandements, sont conformes aux normes éthiques, si elles sont bien, si elles sont mal. C'est une imprudence ou pas ? C'est une impureté ou pas ? Oui ? C'est libérant, vous allez voir, il va falloir regarder ça. Donc, le sentiment ne s'occupe que de la personne. Et le sentiment de culpabilité vous enveloppe du manteau de la culpabilité. Vous êtes coupable. Ce
c'est bon, j'ai Jésus qui est revêtu de la chlamyde, hein, n'est-ce pas?
Et au centre de moi, au fond, si vous voulez, eh ben, c'est pas Dieu, quoi. Hein? On est donc d'accord. Au centre de moi, c'est pas Dieu. Au centre de moi, c'est le péché. Vous avez reconnu immédiatement la différence entre la perspective, la vision de l'homme dans la vision catholique, apostolique, et la vision luthérienne. Pour Luther, au centre de moi, le péché a tout détruit. Il n'y a plus rien de saint en moi. Santé. Il n'y a plus rien de saint en moi dans mon intelligence, plus rien de saint en moi dans ma volonté. Et la mémoire, il n'en parle pas parce que Luther n'a jamais réfléchi à la question de la mémoire. Mais pour lui, il n'y a plus rien de saint. Je ne suis que péché. D'ailleurs, Jésus s'est fait péché pour nous. Alors, je pense qu'on a... voyez bien ? Je ne suis que péché. Au centre de moi, c'est le péché. La personne est péché. Elle est mal. Parce que la personne, c'est le centre, hein. La perspective chrétienne et la perspective de sagesse philosophique aussi. Pas besoin d'être catholique. Donc Luther est beaucoup plus dans l'erreur qu'Aristote. C'est impressionnant. Et pourtant Aristote n'était pas chrétien. Sur sa vision de l'homme, Luther est plus dans la vérité sur sa vision du Christ qu'Aristote. Aristote ne connaissait pas le Christ de toute façon. Donc, il faut voir, il faut arriver à surveiller les choses. Notre vision à nous, et la vision, c'est que l'être, pour Aristote, mais l'être que nous sommes au centre de nous-mêmes, la partie la plus substantielle, la plus vraie de nous, est une participation à l'être premier. C'est comme la goutte dans l'océan, et inséparée de cet océan. C'est une des gouttes qui constitue l'océan. L'être. Et nous, notre être, en effet, au centre de nous-mêmes, non seulement du point de vue de l'être, nous rajoutons en nous que la partie spirituelle de notre âme est inséparée de la présence d'immensité et de la présence de la très sainte Trinité en nous. Il y a au moins un germe de grâce sanctifiante en nous qui demeure tout le temps. Il y a quelque chose de la grâce originelle qui demeure. Ça n'est pas tout notre cœur, toute notre intelligence qui est détruite par le péché originel. Elle est simplement un peu fissurée, ce qui explique d'ailleurs la conscience de culpabilité. Un peu fissurée. L'intelligence n'est absolument pas atteinte. Il n'y a aucune fissure dans l'intelligence. C'est notre cœur qui est un petit peu fissuré, un petit peu blessé, si vous voulez. Le cœur est blessé et la mémoire est éclaboussée. Voilà les deux conséquences du péché originel au niveau de la partie spirituelle de mon âme. Mais la mémoire reste immaculée, innocence, crucifiée. Et mon cœur est un petit peu blessé, mais je suis encore capable d'aimer. Si le péché, d'après Luther, m'a transformé en péché, à ce moment-là, il le dit, je ne suis plus capable de poser un seul acte d'amour humain, et en même temps, je suis incapable d'atteindre la vérité par moi-même. Et donc, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que Jésus m'enveloppe de son sang et me prenne pour me sauver quand même, par sa miséricorde. Tandis que nous, nous disons, mais non, Jésus, il est là et il reprend tout de l'intérieur par son sang précieux, par sa gloire, par sa grâce et par sa lumière. Hein, c'est deux visions, mais complètement différentes. Hein. La position idéologique moderne est un résultat de l'ontologisme qui est une contre-réaction par rapport à la scolastique décadente. Et donc, vous voyez bien que c'est pourquoi les idéologies modernes reprennent le schéma luthérien. C'est une contre-réaction par rapport à la philosophie aristotélicienne reprise par saint Thomas d'Aquin. C'est une triple réaction. C'est la première réaction... Première réaction Occam, deuxième réaction Descartes, et tout l'ontologisme jusqu'à Hegel, troisième réaction Feuerbach et cette idéologie athée. Et au fond, les idéologies modernes, Freud compris, sont sur ce schéma qui est freudien, qui est luthérien.
Alors il n'arrive pas à changer.
Mais nous on s'en sort puisqu'on est catholique, madame.
Oui, quoi.
Alors, donc, vous voyez bien que au centre de moi, on va dire, j'ai le péché. Le centre accusateur de moi-même définit mon état de pécheur. Alors, je trouve ça insupportable. C'est évidemment insupportable. Et comme c'est insupportable de vivre intérieurement, je suis un péché, c'est insupportable. Alors, pour éviter tout le temps de voir tout ça, de voir cette horreur que je ne suis que péché, soi-disant, je vais construire, je vais faire avoir des contre-réactions, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc la névrose d'échec, des contre-réactions, je vais engendrer, je vais bien essayer de camoufler tout ça, finalement, pour, sinon c'est trop lourd à porter, vous comprenez, par des contre-réactions, et on va appeler ça les dérives pathologiques, les fameux caches, les pagnes qu'on avait donc dans la Genèse. Vite, on se cache pour montrer qu'on n'est pas nu. J'ai honte. Sentiment de culpabilité, j'ai honte. Du coup, vite, je vais me mettre un slip, un soutien-gorge, des tuniques, tout ça, avec des feuilles de figuier. C'est dans la Genèse, ça. Et je vais me cacher. Je vais me cacher parce que j'ai honte. Et je vais me planquer derrière ces arbres. Les arbres qui cachent la forêt, vous voyez, c'est ça. Je me cache derrière là, derrière les arbres. Et je ne me mets pas au pied de l'arbre où j'ai pêché. Ah non, je vais me planquer derrière les autres arbres. Je fais le sentiment de culpabilité. Mais c'est contre-réaction, vous comprenez ? C'est curieux les mécanismes de la psychologie et le sentiment de culpabilité. Alors, c'est ça que vous avez donc dans l'écriture. Alors oui, je vais prendre tous ces systèmes de défense. Et je vais prendre des systèmes de défense où finalement, bah, je vais quand même un petit peu plus briller ici que là, quand même, vous voyez. Ma situation est un petit peu plus brillante ici. Alors ici, mais oui, finalement, je ne suis pas si mal que ça, regardez. Je ne suis pas si mal que ça. Je suis une merveille. Je suis merveilleux. On ne m'aime pas, mais moi, en fait, je suis merveilleux. Je suis vachement bien, regarde. Et je vais construire tout un système de séduction illusoire. Voilà. Et en réalité, donc, vous voyez bien que ce n'est pas vrai tout ça. Ce schéma n'est pas juste. C'est pour ça que donc, on vous a distribué le fameux petit tableau sur l'anthropologie structurelle. Au centre de nous, il y a cette innocence divine et le péché. Vous voyez, chez les catholiques aussi, hein, on a ce schéma. Malheureusement, parce que je crois qu'on a mal peut-être fait le catéchisme à un moment donné. On disait, tu fais le péché. Si tu fais le péché, tu perds l'état de grâce. Donc Dieu est parti. Il n'y a plus que le péché en toi. On n'a pas un petit peu ce schéma chez les catholiques qui ont fait un catéchisme un peu trop scolastique, ocamien. C'est ocam, ça, hein, de dire comme ça. Ocam a engendré Luther, hein, tout de suite, hein. Les présupposés philosophiques de Luther, c'est Occam. Hein. Que personne n'oublie ça. Hein. Mais non, le péché ne m'a pas séparé de la présence d'immensité, ni de la présence originelle de grâce. Le péché originel, c'est quoi? C'est que mon âme, elle participe à la grâce originelle en Adam, mais cette grâce originelle est blessée, c'est tout. Il y a des séquelles, Saint Jean le dit bien, ce sont des séquelles. Si je fais un péché, bon ben d'accord, je perds quelque chose. C'est vrai que je perds quelque chose. Je perds cette dynamique. J'ai toujours le germe de la grâce sanctifiante, mais cette dynamique de la grâce qui fait qu'elle est sanctifiante s'arrête. Mais elle demeure. Dieu demeure. Mon innocence est là, et prise dans l'étau, si vous voulez. D'accord, voilà. Mais elle n'est pas partie. Dieu n'est pas parti du tout. C'est pour ça que si je fais un péché mortel, je dis ça va, j'ai perdu l'état de grâce. Vous vous rendez compte, c'est merveilleux, c'est génial, j'ai perdu l'état de grâce. Donc je peux continuer. Que je fasse 4 ou 5 fois, c'est pareil, je vais me confesser après-demain. Ça ne fera pas plus de drame. Mais si, malheureux, malheureux. Le deuxième, le troisième, le quatrième péché, acte. Un péché mortel.
oui, mais j'en ai pris l'habitude au quatrième, j'en ai pris tellement l'habitude que c'était dans le même. Donc, c'est pas un péché supplémentaire, pardon. D'ailleurs, c'était presque lié à la pulsion. C'était impulsif, c'était. Eh ben non. C'était un péché mortel quand même. C'était plus conscient, c'était. Je maîtrisais plus la situation. C'était un péché quand même. C'était un acte de matière grave. Et il s'enracine dans le premier. Et donc, il est déterminé par son enracinement. C'est un péché mortel. Encyclique, hein, c'est pas mal. Relisez l'encyclique.
Non-croyant et non-connaisseur, pas pour ça. L'encyclique, déjà, il y avait définitivement eu, c'est même, c'est la critique qu'en ont fait le journaliste. Personne n'y reviendra
beaucoup.
Oh pas nous.
Ne croyez pas ça. Bon, on en parlera longtemps de cette encyclique. C'est l'unique document d'éthique de l'Église catholique. C'est l'unique. Il n'y en a jamais eu. Vous allez voir que. Ouh là 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 là. Oh là là là, c'est un document de base.
Vous pouvez expliquer un petit peu le. On dit qu'on fait un péché mortel, qu'on évacue, en quelque sorte, on évacue
complètement. Oui. Oui, c'est un certain schéma. À l'époque où on faisait le catéchisme dans les questions-réponses, on disait quelque chose qui était vrai, si tu veux, à savoir, tu as le baptême, tu viens de communier, tu t'es confessé, tu n'as pas fait encore de péché mortel. Alors du coup, t'inquiète pas, tu as fait quelques petits péchés, venir, que c'était pas grave, bon d'accord, tu as mis 5 secondes à aller répondre, à dire oui maman, je vais obéir. D'accord, donc pendant 5 secondes, tu as fait un péché véniel, d'accord. Tu dis, attends, 5 secondes, hein, je me donne. Hein. Bon, d'accord, c'est pas un péché mortel. Donc, tu as encore la grâce sanctifiante. Mais tu vas faire le péché mortel, volontairement, lucidement, et on te disait, celui qui fait un péché mortel perd la grâce sanctifiante dans son âme. Ah oui, c'est vrai, c'est la fonction de sanctification de la grâce que tu perds. C'est pas la grâce. Puisque tu as le caractère du baptême, donc tu as toujours la présence réelle de Jésus crucifié. T'as toujours l'Esprit Saint qui est là, prêt à bondir. T'as toujours le Père qui t'attire. La présence de grâce de Dieu, la très sainte Trinité, est personnellement présente.
Quelqu'un qui n'est pas baptisé, voilà. Est-ce qu'il peut faire un péché mortel?
Écoute, il y a cas et cas, parce que Dieu seul connaît la foi. Donc, ça dépend de la manière dont il a reçu la foi. S'il a l'impression de ne pas avoir la foi, ça peut venir du sentiment de culpabilité. Mais c'est faux. Et il peut très bien avoir l'impression d'avoir la foi et ne pas l'avoir. Et donc, et il peut très bien avoir l'impression d'avoir la foi, c'est une impression, et ne pas l'avoir. Donc, tu comprends. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? Sanctifiante, la grâce sanctifiante, c'est que elle continue à prendre possession de ton terrain intérieurement. Elle continue à envahir, à te sanctifier. Avec le péché mortel, ça s'arrête. La croissance dans l'ordre de la grâce s'arrête.
On attend de dire qu'on perd la grâce.
Tu perds. Tu perds la partie vivante de croissance, de la grâce. C'est pour ça que tu ne perds pas du tout la grâce actuelle. Tu ne perds pas du tout la grâce enveloppante. Tu ne perds pas tout, non plus... tu ne pourrais pas dire que ton innocence est blessée. Innocence que tu ne pourrais pas dire. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'innocence. Et donc, tu n'es plus que péché.
Et la présence d'immensité, c'est
quoi? La présence d'immensité de Dieu, c'est le fait que... À partir du moment où tu existes, Dieu est en train de te créer, et donc il est présent dans son acte créateur. Dans le fait que tu existes.
Mais pas dans la vie.
Si, parce que aussi, il t'a donné la vie, donc tu peux toujours revenir. Mais c'est un autre processus, ça. Mais écoute, on ne va pas revenir là-dessus. Hein, on est sur un autre problème.
Donc, c'est vrai, il faut mieux dire, au sein de moi, il y a Dieu, mais mon innocence, elle est blessée, elle est crucifiée, ma divinité, cette présence divine par laquelle je suis le Saint des Saints, par laquelle je suis quelque part l'Immaculée Conception, par participation, elle est en moi, vous voyez, oui, je suis blessé, et comme je suis blessé, c'est vrai, du coup, le péché est possible. C'est vrai, je peux pécher. Mais je reste innocent. Jusqu'où ira le péché ? Mon innocence est toujours plus forte que ce péché. Sinon, ça voudrait dire que je suis plus que Dieu. J'espère que vous voyez. Bon, si je ne fais pas ça, alors à ce moment-là, j'accuse. Je m'accuse moi-même et j'accuse les autres. Parce que si c'est vrai pour moi-même, c'est pareil pour les autres. Et quand je juge les autres, ça veut dire que je suis là. Pas le droit de juger les autres. Quoi qu'il ait fait, hein. Quoi qu'il ait fait. Quelqu'un qui refuse de pardonner, ça veut dire qu'il n'est pas sorti du point de vue psychologique, il n'a jamais commencé. Vous savez, il y a des gens qui commencent quelques heures avant leur mort à devenir un homme. Donc, pour sortir, si vous voulez, du sentiment de culpabilité, il faut sortir. Il faut rentrer dans le regard de Dieu sur moi et dans le regard de Dieu sur les autres. En effet, vous voyez bien quand, c'est ce que par exemple disait Marthe Robin, bon, quand souvent les gens, quand ils se trouvent face à un saint, c'est plus facile de dire face à un saint parce que par différence, vous savez, moi je suis rien du tout, moi je suis indigne, moi, je suis pas aimable, etc. Certains amis, par exemple, que j'ai connus, qui disaient non, je ne suis pas digne d'être prêtre. J'ai connu beaucoup d'amis comme ça. Je ne suis pas digne, c'est prêtre, c'est trop grand pour moi. Je ne peux pas être prêtre. Ce que je fais est trop mal. Ce que je suis est trop mal. Je ne peux pas recevoir. Alors Marthe, quand elle s'est trouvée face à des gens comme ça, elle s'est dit, mais non, ne dites pas que vous êtes indigne. Parce que dans le Christ, votre dignité nous est révélée. Dans le Christ, notre dignité nous est redonnée. Et notre innocence est toujours plus forte que la mort. Et Dieu est plus fort que nous. Et c'est Dieu qui est présent dans le Christ. Pour un chrétien, c'est trop clair. Donc, accuser sa personne et non ses actes, vous voyez, c'est ça le sentiment de culpabilité, c'est subtilement se réfugier dans le sentiment de culpabilité. Et quand on rentre dans le sentiment de culpabilité, quand on se réfugie dans le sentiment de culpabilité, c'est une manière spirituelle, libre, de se déresponsabiliser. C'est pas de ma faute, c'est moi qui suis nul. Et de mettre du coup la faute sur Dieu, et sur les autres, et pas sur moi en raison de mes actes. Ce sont mes actes qui en produisent l'ordre.
le confesseur, il doit être féroce sur les actes. Il doit être très clair et dire non, c'est les actes. Et si le confesseur, il voit que la bonne femme, elle arrive, ou le bonhomme, hein, c'est terrible, c'est ici, qui ne vient pas aux actes, hein, elle dit, non, je ne vous donne pas l'absolution, vous viendrez. Est-ce que je peux me confesser, mon père, c'est très important, etc. Tout de suite, on voit la personne qui arrive pour se confesser, animée par le sentiment de culpabilité, c'est tout de suite. Non, j'ai pas le temps. Et il a raison. Ça fait partie du pouvoir du prêtre, ça. De réagir immédiatement, disons, souvent, à son insu. Alors, vous voyez, cette manière subtile de ne pas voir la vérité qui m'habite à travers cette notion de culpabilité. Le mode d'apparition. Le mode d'apparition, vous voyez, dans notre nature humaine, il y a cette soif. Cette innocence divine, c'est quoi? C'est une soif, cette attente infinie d'amour. Je suis fabriqué avec une matière particulière. Et Dieu, justement, me fabrique avec une matière d'amour, avec lui-même comme matière première, sauf que Dieu n'a pas de matière. C'est ça qui est génial. Et avec l'unité de mon père et de ma mère, et comme c'est évident que l'unité de mon père et de ma mère n'est pas tout à fait fabriqué de l'amour, si vous voulez. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas tout à fait de l'amour, hein, dans la relation entre la gamète mâle et la gamète femelle. Mais n'empêche, c'est une relation entre la mère et la femme. Relationnelle, qui est portée par le point de vue plus élémentaire du corps vivant, femelle et mâle. C'est à partir de ces deux matières d'amour et d'unité, d'amour du côté de Dieu et d'unité du côté de l'homme et la femme, que Dieu fabrique, crée un nouvel être. Et du coup, c'est pourquoi c'est une potentialité, c'est une capacité, c'est un désir, une attente infinie d'amour qui structure notre innocence originelle. Dieu présent comme soi. Et c'est comme ça que nous sommes fabriqués dans notre corps. C'est ça qui est porté par cette fameuse cellule d'ADN qu'on essaye de voir. Peut-être. Alors, l'enfant donc grandit à partir de là. Mais seulement, le seul support qui lui reste, c'est cette relation d'amour avec son père et sa mère. Et il reçoit cet amour de son père et de sa mère en son sang. Est-ce que vous voyez ça? Et de sorte que cet amour éternel de Dieu, dont il a conscience dans sa mémoire ontologique, va se conscientiser dans le regard de papa et maman. Se conscientiser d'abord au niveau de la sensibilité, puisque l'embryon ne se développe au départ que sur le plan de vue de la sensibilité interne, pas encore sur le point de vue spirituel, puis ensuite sur le point de vue spirituel. Il va se conscientiser dans le regard de papa et maman. Et donc, il y a un vase, une attente infinie d'innocence, vous voyez, une capacité infinie d'amour, pardon, cette attente infinie d'amour, qui mais le regard de papa et maman ne donne pas cet amour infini parce que, justement, eux aussi sont blessés. Et ils ne donnent pas à torrent l'amour de Dieu, l'amour pur. Et du coup, mon vase d'attente, mon innocence, est en partie vide, en partie insatisfaite, en partie remplie, à moitié vide, ou à moitié remplie, comme vous voulez. À moitié remplie, c'est l'innocence. Amour de Dieu du prochain, présent concrètement, réellement, physiquement, sensiblement. À moitié vide, innocence crucifiée. Alors, cette attente d'amour, infini, pardon, d'amour, qui va se remplir de la présence de physique incarné à travers l'amour parental,
va petit à petit me faire prendre conscience de la grâce, de que je suis cette merveille de sainteté pour laquelle Dieu s'est ébranlé pour devenir créateur. Je suis cette merveille. Je suis un saint. Parce que justement, la relation d'amour de mes parents a rempli ce vase autant qu'il a pu. Et du coup, je suis consciemment en présence de cette merveille que je suis, et c'est peut-être ça la grâce. Donc, vous voyez bien qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont remplir cette vase, cette capacité, cette ouverture, cette attente, ce désir d'amour infini. C'est Dieu à travers l'amour de mon père et de ma mère, mais aussi Dieu lui-même à travers des grâces actuelles, et enfin Dieu à travers les sacrements, le baptême par exemple, la prière qu'on fait pour vous. Mais ça n'est jamais complètement rempli. Et c'est justement ça. Nous, si vous voulez, on est toujours insatisfaits parce que c'est vrai, nos parents, si saints qu'ils soient, hein, il n'y a que Marie. Ah oui, Marie était pleine dès le départ. Marie pleine de grâce. Là aussi, ça serait très, très beau de voir la différence. Marie est aussi pleine. Pleine de grâce, au départ, à la conception. Ça c'est pas mal, ça. Il faudra pas l'oublier. On reviendra là-dessus. Mais nous, non. C'est peut-être ce qui fait notre grandeur par rapport à Marie, hein. Eh bien oui. Parce qu'on peut faire ce qu'elle, elle n'a pas pu faire, puisqu'elle était pleine au départ. Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'il avait la plénitude de grâce?
Non, ça veut dire qu'il a été sanctifié avant la naissance. C'est une manière de dire qu'il a reçu le sacrement de baptême avant la naissance. Les effets du sacrement. Parce que la circoncision, c'est un sacrement. D'après saint Thomas d'Aquin, la circoncision, c'est les juifs, leur donner la grâce sanctifiante.
Il correspond au baptême.
C'était un baptême. C'était le signe efficace de la justification des juifs. Et lui, il a reçu cette justification avant la naissance. Voilà ce que ça veut dire.
Comme Jean-Baptiste.
Comme Jean-Baptiste. Ça révèle simplement ce qui s'est passé pour Joseph, à mon avis aussi. Hein? Les anges vous envient, Madame Théry, c'est vrai.
Oui.
Mais moi, j'envie les anges. Parce que c'est beau, c'est grand notre histoire, mais. Donc vous voyez bien, nous ne sommes pas donc pleins de cette innocence surabondante comme Marie, à cause des limites des parents, mais aussi à cause du mal ambiant. Il y a une espèce de phénomène curieux, si vous voulez, les maladies. Si ma mère est malade, elle va tomber malade, par exemple. Elle ne peut pas s'occuper de moi, etc. Bon, il y a toutes sortes de choses. Ce n'est pas une question de leur faute, hein. Ça n'a rien à voir, je veux dire, c'est normal et c'est bien et c'est Dieu qui le veut, hein. Et Dieu le veut, et c'est seulement ça qu'on va comprendre, c'est exactement ce qu'il va éviter. Ce phénomène de blessure de l'innocence n'est pas mal du tout. Que mon innocence soit blessée, c'est pas mal, c'est ce que je vous disais, il faut s'aimer comme ça, c'est notre chance que notre innocence ait été crucifiée. C'est notre plus grande chance. C'est ça qu'il faut arriver à voir. Parce que c'est là que je vais le prouver, et pas ailleurs, et nulle part ailleurs. Cette béatitude, une victoire de la mort sur tout, à travers moi, physiquement, personnellement. Alors c'est l'amour que je veux, et non les sacrifices. Hein, des païens. Donc, le manque d'amour
le manque à être rempli complètement d'amour infini. Dans cette innocence qui cette soif, cette attente infinie d'amour, c'est ça qui va toucher en moi le désir d'être aimé. Va enclencher, si vous préférez, le désir d'être aimé. Et si vous voulez, ce fait, ce manque, cette blessure, si vous voulez, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, va engendrer la brisure de cette dépendance ontologique dans l'abandon. Lorsque, je répète, l'abandon ontologique de dépendance va être brisé. Et c'est ça le fruit de ce manque d'amour qui vient de ce fait que ma soif infinie d'amour n'est pas comblée par l'amour de mes parents, par Dieu à travers l'amour de mes parents. Ça va enclencher en moi ce phénomène que l'abandon ontologique de dépendance va être lui-même brisé. Qu'est-ce que c'est ? Je vais expliquer. Quand je suis dans les sorties des mains de Dieu au premier instant de ma conception, je suis fabriqué avec un amour infini, dans une matière, d'une manière finie, dans le temps. Et c'est moi, ma personne est déjà constituée. Et mais là, je dépends. Je suis complètement dans les mains de mon Créateur, dans cet amour infini, directement. Donc je suis abandonné, totalement. Substantiellement, métaphysiquement, vitalement, ontologiquement. Abandon ontologique d'amour. De dépendance, dans une dépendance par rapport à l'unité de mon père et ma mère et de Dieu. Et l'innocence, la crucifixion de l'innocence ou la blessure de l'innocence va briser cet abandon ontologique de dépendance-là et va m'obliger à désirer. Si j'étais toujours dans cet abandon ontologique de dépendance, il n'y aurait plus de conquête possible, de mérite, et donc de charité possible. Le Christ n'aurait plus sa place. Le Rédempteur. Le Rédempteur n'aurait plus sa place. Donc la grâce n'aurait plus sa place. Donc la sainteté n'aurait plus sa place. Donc la gloire de Dieu n'aurait plus sa place. Et donc c'est un bien. La crucifixion de l'innocence. C'est un bien que Jésus ait été crucifié, c'est un bien. C'est pour ça quand Saint-Pierre dit, ah non, tu n'iras pas à Jérusalem pour être crucifié. Jésus dit, écoute, arrière, Satan. Je ne suis pas venu pour dire, je suis la lumière du monde, je suis la voix, je suis l'éveillé, je suis le Dieu vivant. Non, pas du tout. Je suis venu. Pierre qui était têtu comme une mule, il a mis du temps à piger, je veux dire. Il a mis du temps. Philippe, il n'a pas compris non plus. Il dit tout le temps, bon ben voilà, tu veux nous montrer le Père, tu veux nous montrer. Il avait déjà pigé ça, Philippe, c'est pas mal. Hein. Là, donc montre-nous le Père. Du coup, ça fait 3 ans que je suis avec toi, Philippe, et tu me dis, montre-nous le Père, mais quand tu vois le Père. Parce que quand tu vois Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, mais le Messie qui est là. Et quand tu vois Jésus, il ne faut pas que tu vois l'éveillé, le Messie, l'onction, le roi, le prophète. Arrête! Regarde la plaie, regarde le rédempteur, le crucifié. Je ne suis pas venu comme ça pour m'incarner, l'incarnation, je m'en fous. Je suis venu pour sauver le monde comme rédempteur. C'est Jésus crucifié et ressuscité qu'il faut regarder. Ce n'est pas Jésus incarné. Et quand tu es Jésus crucifié, c'est l'innocence crucifiée. Et quand tu es dans l'innocence crucifiée, inséparément. C'est pour ça que la recherche sur la paternité que nous faisons, elle est très très liée à l'innocence crucifiée. Et que Jésus crucifié, une fois qu'il est mort et que son cœur est blessé, devient notre Père. Et quand tu dis notre Père, tu t'adresses à la plaie du cœur. Et à travers cette plaie, tu t'adresses aussi au Père du Verbe de Dieu. Ça ne change pas. Ah, alors, on continue. On touche des trucs. Hein? C'est une arête. Hein? J'espère que je vais lentement, mais pour qu'on garde le fil, comme on dit. Qu'on garde le Fils de Dieu. Ça, le fil. Voilà. Le Fils de Dieu. Alors, donc cet abandon ontologique de dépendance est brisé. Et c'est tant mieux. J'aime pas d'être comme je suis, d'être mal, etc. C'est horrible, je suis toujours comme ça, etc. Mais si. C'est ça qu'il faut regarder en toi, c'est ça qu'il faut aimer en toi. À ce moment-là, tu ne gémis plus, tu ne murmures plus, tu ne bougonnes plus, mais tu t'arrêtes à cette blessure, et tu restes silencieux, et tu es heureuse de t'offrir comme ça, et d'en trouver un instantané. Là, tu es dans la vérité. Mais si tu te plains, tu es dans le sentiment de culpabilité. C'est pour ça que le silence est la spiritualité du Père. Joseph se tait. Vous ne verrez pas Joseph m'agouiner en disant c'est terrible, la Vierge ne m'a pas dit c'est mieux, qu'est-ce que c'est effrayant, etc. Il va discuter avec son client, écoute, il m'a demandé de faire trois poutres pour faire ton toit, écoute, oui, mais ça, je suis embêté en ce moment, mon fiancé est mignonne comme une perle, mais enfin, c'est tout ça. Enfin, et si, et là, c'est horrible, elle ne m'a pas dit, elle est partie, je suis fiancé, elle faut quand enfin, non, non, il ne fait rien. Il ne discute pas. Il est blessé et il aime ça. Il s'aime, il sait que c'est ça sa vocation, c'est ça sa sainteté. Et c'est à travers ça que le Christ va pouvoir constituer sur la croix l'histoire de l'Immaculée Conception. À cause de ça. Si Joseph n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu l'histoire de l'Immaculée Conception. On l'a vu hier et on verra ça encore. Le rôle de Joseph, son silence, et l'amour, son innocence, la blessure, son innocence. C'est pour ça que Joseph, lui, n'est pas plein dès le départ. Très important dans la Sainte Famille, il y en ait un qui ne soit pas plein de grâce dans son innocence dès le départ. Sinon, il n'y aurait pas pire. Il n'y aurait pas pire. C'est la rédemption. Hein. Eh, ben, il va comprendre pourquoi. Et c'est vrai. C'est pour ça que Marie et Jésus doivent obéir à Joseph. Et de ce côté-là, il est plus grand qu'eux. Ça en dit long, ça. Alors, c'est rien, si vous ne comprenez pas tout, vous avez le temps de réfléchir, de prier, de méditer. Ça, de toute façon. Donc, vous sentez bien que ce manque, cette brisure de l'abandon ontologique de dépendance au Père des origines, et qui va engendrer un désir qui dépasse absolument ce que j'aurais reçu si ce vase avait été plein, la gloire, eh bien, il est lié, au fond, à une certaine séparation de l'amour. L'amour de mes parents me sépare quelque part, parce qu'il est limité de l'amour de Dieu. Et il y a un phénomène de séparation. Et ça, c'est un phénomène très connu par les psychologues.
c'est que tout ce sentiment de culpabilité s'engendre à partir de cette succession de séparations. Et c'est pourquoi c'est essentiellement les stades de séparation qui engendrent cette crucifixion de l'innocence. Vous savez, par exemple, quand il y a la naissance, par exemple, vous êtes séparé de votre mère. Vous n'êtes plus dans le sein maternel. C'est une séparation. Et c'est la nature et la sagesse créatrice de Dieu qui le veut. Que l'embryon, de plus en plus, rentre dans un amour séparé. Et ça, c'est une chose très, très intéressante, parce qu'elle est reprise par toutes les mystiques de l'école française, de XVIIe et XVIIIe siècle, sur la fameuse notion de l'amour séparant. Parce que l'amour a deux fonctions. C'est un amour séparant et c'est un amour unifiant. L'amour t'unit à celui que tu aimes et l'amour te sépare de lui. Tu restes. Plus l'amour te sépare de lui, plus il t'unifie à celui que tu aimes. C'est pour ça que Jésus dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, je me sépare. Pour qu'on soit encore plus unis. L'amour séparant, voyez bien, parce que ce désir, à partir de l'innocence crucifiée, d'amour infini, m'oblige à faire rentrer ma chair blessée dans l'incréé, l'éternité de la très sainte Trinité. Et donc c'est plus grand, comme amour et comme fruit. Alors, vous sentez bien que ce fait de la séparation, des séparations successives, d'une certaine manière, le petit embryon, il se sépare d'abord du lieu de l'unité des deux gamètes, puis après il va y avoir la nidification, il rentre uniquement quelque part dans l'utérus, la nidification, il s'accroche, et là il se sépare quelque part de ce lien direct avec son père. C'est à ce moment-là que la femme prend conscience qu'elle est enceinte. C'est à partir de ce moment-là qu'il commence à y avoir d'ailleurs quelques mauvaises pensées souvent, ou quelques pensées contradictoires, tu vois, d'angoisse, tout ça, qu'est-ce qui m'arrive aussi, de peur, tu vois. Puis après, il va y avoir les différentes séparations, tu vois, et donc la naissance, la nativité, puis l'école, etc. Donc la croissance implique cet amour séparant. C'est cet amour séparant qui va permettre, du coup, et qui est nécessaire pour l'apparition de mon identité. Et si j'étais tout le temps dans cette dépendance ontologique et vitale et embryonnaire et biologique, mon identité et ma personne n'apparaîtraient pas. Donc, c'est le deuxième aspect sous l'angle duquel on peut convoir que l'innocence spécifiée est un bien indispensable. Parce que l'amour séparant m'oblige à la croissance. Et la croissance m'oblige, va vers ce fait que je trouve mon identité. Je découvre mon identité. Vous voyez ? Mais en même temps, cette découverte de mon identité à travers l'amour séparant fait naître en moi un sentiment de culpabilité. Donc, il y a deux choses qui apparaissent à partir de l'innocence crucifiée. Vous voyez ? Cet appel à la sainteté, cette vocation, prédestination à être plus grand que tous les saints, n'est-ce pas ? Fait naître cette croissance et cette assomption de mon identité, mais d'un autre côté, fait apparaître aussi le sentiment de culpabilité. Parce que c'est vécu à travers les séquelles du péché originaire. Vous voyez ? Alors, il faut bien voir, si vous voulez, que ce n'est pas une catastrophe. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres manières de le voir. Parce que, évidemment, ça fait apparaître le sentiment de culpabilité. Mais ça fait apparaître, donc, cet appel à l'identité, à une unification plus grande, et cette soif de sainteté. Donc, on est d'accord, le sentiment de culpabilité, c'est un point. Et le sentiment de culpabilité lui-même a un aspect positif et un aspect négatif. Alors attendez, où est-ce qu'on en est dans le... La brisure de l'être aimé concerne la personne, ce qu'elle est, la réaction est primaire. Oui. Non, on en est encore, voyez, dans la blessure. Elle concerne la personne, ce qu'elle est. Mode d'apparition.
Donc, les séparations successives qui font souffrir le petit enfant, n'est-ce pas, entraînent la souffrance. Les séparations successives, en raison des blessures, entraînent la souffrance. Par exemple, la naissance. La naissance, c'est une souffrance pour un enfant. Il crie, hein. Le malheur, le péché, la blessure, tout ça, entraîne une souffrance, la souffrance. Et la souffrance entraîne le sentiment de culpabilité. Et le sentiment de culpabilité entraîne une certaine honte. Vous savez, on a tous le sentiment de culpabilité, et personne ne vient de dire qu'il n'y a pas de sentiment de culpabilité. Le seul fait que vous soyez né, c'est que vous avez forcément le sentiment de culpabilité. Quelqu'un qui est malade, par exemple, ce n'est pas parce que vous avez fait une faute que vous avez le sentiment de culpabilité. J'espère que vous comprenez petit à petit. C'est parce que vous êtes séparé d'un amour dans lequel vous avez été créé. Alors il y a un manque. Mais c'est pas de votre faute. Quand vous avez une maladie, la maladie vous frappe. Mais la maladie vous frappe, vous attrapez un virus. D'accord, c'est une conséquence du péché originel. Mais c'est pas une conséquence du péché originel de vous. C'est une conséquence du péché originel dans le monde. Donc vous y êtes pour rien. Et pourtant, quand vous êtes malade, vous n'avez qu'à regarder. Quand quelqu'un, vous tombez malade, vous êtes toujours en bonne santé, eh bien... Vous vous sentez coupable, hein? Non, te dérange pas, ne fais pas me... Hein, vous êtes malade, vous avez peur de déranger, vous avez honte, hein, d'être malade. Sentiment de culpabilité. Alors c'est à cause de ça, évidemment, que cette honte vous met, fait apparaître une espèce d'angoisse, on est un petit peu angoissé, si vous voulez. L'angoisse de la naissance, c'est évident qu'il y a une angoisse dans la naissance, par exemple, pour le petit enfant. Et cette angoisse qui vient de la constitution du sentiment de culpabilité fait apparaître une certaine agressivité. Vous voyez ? Donc vous avez le processus est donc le suivant, la blessure entraîne la souffrance entraîne le sentiment de culpabilité qui vous met dans un état de honte, de manque. Et du coup vous êtes dans l'angoisse, comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Et cette angoisse vous met dans l'agressivité. Vous voyez? Et cette agressivité, oui, c'est parce qu'elle vous met dans l'agressivité, parce que le sentiment de culpabilité vous rend honteux. Et vous rend honteux, dites-vous, quelqu'un, du coup, vient vous, à votre secours, et puis vous le rejetez en disant, mais non, c'est pas, vous comprenez, c'est ça, quand vous sentez, quand vous, quelqu'un, vous êtes malade, pourquoi vous avez ce premier mouvement en disant, non, écoutez, non, de le rejeter quelque part, hein? C'est parce que vous rejetez cet état dans lequel vous êtes malade. Vous voyez bien? C'est pas plein de santé, de vie, d'amour. Et c'est pourquoi il y a cette agressivité. L'agressivité vient de là. Et l'agressivité n'est pas quelque chose de mal. Combien de fois je vois des gens qui viennent se confesser, par exemple, en disant « je suis agressif », etc. Mais c'est excellent! Je me rappelle toujours mon prof de maths... Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes, vous? Il était de Narbonne, et moi j'étais à Versailles. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous êtes une génération, mais des mollusques, des silas, des mous. C'est un gros bonhomme qui arrivait comme ça, il nous faisait les mathématiques. Je préfère arriver toujours avec une brouette de polycopier. Allez, il faut travailler, hein, vous ne pensez pas que vous allez avoir un concours comme ça. On vous lit maintenant, mais manière filambole, hein. Puis après le coup, il rentrait dans sa bagnole, qu'il mettait toujours dans la cour, qui était une petite voiture rouge. On se demandait comment il allait arriver à rentrer là-dedans. Alors, le vécu affectif. Vous voyez, donc cette agressivité, pourquoi c'est positif? Parce que l'agressivité est positive, parce qu'elle permet de trouver son identité.
grâce à l'agressivité, vous trouvez votre identité. Votre identité se construit. Donc c'est un processus qui est normal. Et il faut faire attention que l'agressivité ne soit pas une agressivité coupable. Il faut que ce soit une agressivité de croissance. Et justement, c'est ça qu'on va petit à petit essayer de voir. Souvent, quand on est agressif, si vous voulez, quand vous êtes, je vous donne un petit exemple. Quand vous êtes agressif et que vous pensez en vous, mais enfin, laisse-moi tranquille, c'est une bonne agressivité. Lâche-moi les baskets, hein. Bonne agressivité. Décolle-toi, hein. De l'air, bonne agressivité. Qu'est-ce qu'il est collant, c'est là, là. Oh. C'est Charlotte qui commence à respirer. Le vécu affectif. Donc vous voyez bien, le vécu affectif du sentiment de culpabilité, il n'existe pas de sentiment de culpabilité sans vécu affectif. C'est notre affectivité, on ressent les choses et ces impressions. Quand je dis il ne faut pas vivre à partir de ces impressions, ça veut dire, ça veut pas dire il ne faut pas qu'il y ait ces impressions. Ces impressions sont toujours là. C'est indispensable qu'il y ait le sentiment de culpabilité, j'espère que vous comprenez. Mais on ne vit pas à partir du sentiment de culpabilité. Et on ne se réfugie pas dans le sentiment de culpabilité. Mais c'est indispensable qu'il soit là. Parce que ce sont ceux qui nous aiment le plus qui nous blessent le plus. Et donc, si nous n'avons pas ce sentiment, ce serait effrayant. Ça voudrait dire qu'on ne serait pas blessé par ceux qui nous aiment le plus. Mais de toute façon, l'enfant, lui, qui est innocent, fabriqué avec de l'amour et cette soif d'amour, il est, croyez-le bien, il est blessé. Parce que l'amour de ses parents est pour lui quelque chose de quasi-infini. Hein. Peut-être pas pour les parents, mais pour lui, oui. Et donc il est blessé. Et donc il y a ce. Donc personne ne dit, moi je ne suis pas blessé du tout. Moi je ne suis pas blessé du tout, moi. Bon, ça va très bien. Moi. Là tu peux être sûr que tu as flanqué un panier avec des pleurs de figuier à ça. Alors il est évident que comme c'est ceux qui nous aiment le plus, ceux que nous aimons le plus qui nous blessent le plus, c'est pour ça que le sentiment de culpabilité va augmenter avec des expériences malheureuses comme les viols, si nous sommes issus d'un viol, s'il y a des manœuvres d'avortement, etc., s'il y a des, etc. Alors évidemment, à ce moment-là, ces drames-là augmentent d'une manière considérable le sentiment de culpabilité. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais c'est sûr que le sentiment de culpabilité est plus ou moins intense, plus ou moins fort. Selon le vécu affectif des premières années, c'est sûr. Ça, c'est une palissade, je dirais. Hein? C'est normal. Les enfants martyrs, les séparations avant la naissance, le fait que tu es adopté tout de suite par un autre père, une autre mère, tout ça, ça va. Hein? Le fait que tu as à la naissance, tu es le sixième d'une famille, déjà cinq garçons. Tu dis enfin, il va y avoir la fille. D'ailleurs, on a été à Cotignac pour demander que ce soit une fille. Et hop, à la naissance, merde, un garçon. Ça, vous connaissez l'histoire de cette famille qui est arrivée à Cotignac, cinq filles, vous savez. Et ils ont été demandés à Cotignac d'avoir enfin un garçon. Elle est tombée enceinte, 9 mois plus tard. Il y a eu 3 triplettes.
Alors ils ont remercié Saint Joseph. Hein. Alors. Extraordinaire. Alors. C'est authentique. Alors, j'attends une fille. C'est un garçon. Hein, c'est terrible. Et les parents, à cette époque-là, et moi, enfin, je connais des gens comme ça, je ne citerai pas, n'est-ce pas? Et du coup, et hop, on laisse pousser les cheveux, quand ils ont 2 ans, ils ont les cheveux, avec des couettes, etc., le garçon, avec des jupes et tout. La mère, elle s'amuse tant qu'il ne parle pas. Et après, on s'étonne que ça fasse quelqu'un qui a une... Au lieu d'avoir une voix grave comme ça, quand il a 40 ans... Histoire symbolique de Jérusalem, Ézéchiel, chapitre 16, 8 plus 8, verset 8, hein? 888, hein? Donc 8 plus 8, chapitre 16, verset 8, vous allez voir, c'est très beau. Histoire symbolique de Jérusalem, hein? Jérusalem, je vous l'ai déjà dit, c'est l'innocence créée, hein? Donc c'est une fois. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem son malheur. Tu diras ainsi, parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Tu es blessé dès le départ. Dans ton origine. Ton père était amorite et ta mère hittite. Allez, viens, les limites. Hein. À ta naissance, au jour où tu vins au monde, on ne te coupa pas le cordon. C'est pas, même pas occupé de toi. Il faut couper le cordon au minimum. Hein. On ne te lava pas dans l'eau pour te nettoyer. À la naissance, on est ce sentiment d'être abandonné. On ne te frotta pas de sel. On ne t'enveloppa pas de l'ange. Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié pour te rendre un de ses devoirs par compassion pour toi. Tu fus jeté en pleine campagne par dégoût de toi au jour de ta naissance. Je passais près de toi et je te vis. Et tu te débattais dans ton sang. Je te dis, quand tu étais dans ton sang, vis quand même. Et pousse. Et je te fis croître comme l'herbe des champs. Et rappelez-vous toujours que l'herbe des champs, dans la Bible, symbolise toujours la grâce. Tu te développas, tu grandis et tu parvins à l'âge nubile. Tes seins s'affermirent, ta chevelure devint abondante, mais tu étais nu. Et la nudité qui ne fait pas disparaître la honte du sentiment de culpabilité. Alors je passais près de toi et je te vis. C'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je te couvris en ta nudité, découverte du manteau. Je m'engageais par serment, je fis un pacte d'alliance avec toi, oracle du Seigneur, c'est là que tu fus à moi. C'est dans l'innocence crucifiée qu'on est revenu. revêtu du manteau de l'innocence. Et c'est ça le pacte d'alliance. Je te baignais dans l'eau. Je lavais le sang qui te couvrait. Je t'oignis d'huile. Je te donnais des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, bandeaux de lin et un manteau de soie. Je te parais de bijoux, je mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, sur ta tête, un splendide diadème. Tu t'es paré d'or et d'argent, vêtu de lin, de soie, de broderie, la fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et tu parvins à la royauté. Tu fus renommée parmi les nations pour ta beauté, car elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais revêtu, oracle du Seigneur. Ézéchiel. Le sentiment de culpabilité vécue affective se met donc en place, comme on vient de le dire dans Ézéchiel, entre l'âge, l'instant de la conception, et l'âge de 2 ans. C'est jusqu'à pendant la période de dépendance symbiotique, qu'il y a cette constitution du sentiment de culpabilité. Alors, j'aurais voulu terminer, mais quelle heure il est ? Bon, alors tant pis, nous continuerons la prochaine fois. Mais, je vous en prie, ne nous arrêtons pas sur le sentiment de culpabilité. Ne prenez pas ce que nous avons vu aujourd'hui tout seul. C'est précisément le sentiment de culpabilité ne doit jamais être regardé. Suivez-vous, s'il vous plaît. Jamais. François. Ne doit jamais être regardé pour lui-même. Hein? C'est un ensemble, j'y tiens beaucoup. Parce que ce que nous avons fait là, c'est de la psychologie. Et je voudrais qu'on fasse une analyse psycho-spirituelle.